Bonjour tout le monde, Spectaculaire commence aujourd'hui, mercredi 22 avril 2015, c'est la 62e, 3e, 4e émission, je ne sais plus, mais vous le savez très bien, quand on aime, on ne compte pas. Christophe Rollin au micro, Gérald n'est pas là aujourd'hui, il sera là la semaine prochaine je crois bien, voilà, c'est un peu relâche ces temps-ci, vous le savez très bien, la semaine dernière il n'y a pas eu d'émission, il y en aura bien une la semaine prochaine. Je ne suis pas seul en revanche au micro, puisque Sébastien Derain est également présent avec moi. Sébastien Derain, directeur artistique, directeur musical de l'ensemble des nouveaux caractères, et aussi directeur, chef d'orchestre du concert à venir la semaine prochaine, concert opéra plutôt, voilà, je cherche mes mots. Didon et Aîné de Purcell, un opéra dont Sébastien Derain pourra nous dire beaucoup de choses, notamment c'est le premier opéra en langue anglaise, c'est je ne sais quoi encore, un opéra du 17e siècle, je ne sais plus encore les dates, 1650, 80, enfin bref, nous évoquerons tout cela pendant toute cette émission, comme d'habitude jusqu'à 15h. On va d'ailleurs commencer, puisque c'est de la musique baroque dont il s'agit, Henry Purcell, on va écouter du Rameau, oui c'est un compositeur français, mais néanmoins cela plaît beaucoup à Sébastien Derain. Donc nous écoutons un extrait du ballet Les Surprises de l'amour, et puis ensemble, ensuite jusqu'à 15h, nous parlerons de Sébastien Derain lui-même, nous parlerons de cet opéra à venir au Théâtre de la Croix-Rousse, je ne l'ai pas encore dit, les dates, ce sera du mardi 28 avril, je crois qu'il y a une 5, 6, 10 dates jusqu'à la semaine suivante, je donnerai tout cela très précisément pendant cette émission. Vous les écoutez sur internet, vous avez raison, radiocanu.org, ou bien, et c'est un petit peu mieux peut-être, à Lyon sur le 102.2 de la bande FM. Eh bien, c'est Sébastien Derain lui-même qui va avoir la parole tout de suite et qui va nous dire à l'instant, qui va nous dire maintenant ce que nous écoutions. C'était donc un passage des Surprises de l'amour, un ballet de Rameau. Bonjour Sébastien Derain, tout d'abord.
Bonjour.
Pourquoi ce choix de...
Oh ben c'est un choix pragmatique avant tout. C'est-à-dire que c'est le premier disque que nous avons enregistré avec l'ensemble des Nouveaux Caractères.
Ah, et puis... je vous ai vu extraire effectivement un boîtier tout à l'heure. C'était donc un CD, un coffret enregistré par votre ensemble, les Nouveaux
Absolument,
Caractères.
Absolument, oui. Donc on a fait ce ballet. Qui est un ballet qui date des années 1754-1758, donc on est en France, sous Louis XV. Et peut-être ça reflète pas mal l'identité des Nouveaux Caractères, c'est-à-dire un ensemble sur instrument historique qui se consacre à la musique de l'opéra et à la musique vocale. Donc, c'est en l'occurrence, on a un ballet qui était une des dernières œuvres de Rameau qui n'était pas portée au disque dans son intégralité. Voilà, on a fait ça il y a 2 ou 3 ans maintenant. C'est un petit peu un bon souvenir. On était content de pouvoir se lancer dans une aventure de cette ampleur.
Alors voilà, vous commencez déjà à en parler de cet ensemble, les Nouveaux Caractères. Bien entendu, on va en parler pendant toute cette émission, puisque c'est un ensemble que vous avez fondé. C'est également l'ensemble qui sera au Théâtre de la Croix-Rousse la semaine prochaine pour cet opéra Didon est né, un opéra très particulier, puisqu'il est question qu'il soit certes mis en scène, et ça quand même il faut le dire, puisque vous intervenez également au Festival Baroque, et je crois que les opéras ne sont pas tout le temps mis en scène lors du festival.
Si, oui. Alors non, au Festival de musique baroque de Lyon, oui, à la Chapelle de la Trinité, où disons que là vous mettez le doigt sur, une chose tout de suite très intéressante.
Nous laisserons ça de côté. Parce que ce que je souhaitais également dire, c'est que cet opéra sera fait avec une dessinatrice, avec de la bande dessinée, Florence Dupré-Latour, qui aurait pu être là. Elle n'est pas là, hélas. Elle reviendra. On va essayer de mettre la main sur cette personne lyonnaise très intéressante. Donc un opéra très particulier, les Nouveaux Caractères. Donc cet ensemble sera celui qui sera sous votre direction pour cet opéra. Mais, avant toute chose, évoquons tout d'abord plutôt vous-même, Sébastien Derain, est en train de brosser un peu un portrait. C'est ce que se propose l'émission Spectaculaire généralement.
Je ne sais pas si tout ça est au fond très intéressant.
Disons un parcours, parce que voilà, par exemple, une question que je pourrais vous poser, c'est qu'est-ce qui vous a amené à programmer ce Rameau ? Donc vous avez déjà répondu dans un premier temps en disant c'est parce que c'est ce que vous avez enregistré avec les Nouveaux Caractères, mais qu'est-ce qui vous a porté vers cette musique baroque ? Qu'est-ce qui vous
Alors en fait, dans le cadre des Nouveaux Caractères et un peu plus largement, moi maintenant, c'est vrai que je me consacre à la direction, ce qu'on appelle la direction d'orchestre. Mais avant d'être chef d'orchestre, j'étais instrumentiste, comme la plupart des directeurs musicaux. Et donc moi, mon instrument, c'était le clavecin. Le clavecin, c'est donc pour tout le monde un peu l'ancêtre du piano. Alors c'est un peu un raccourci, évidemment. C'est, on va dire que piano et clavecin ont existé ensemble à un moment, mais que ce sont des instruments finalement assez différents. Deux instruments à clavier, mais des esthétiques et des moyens pour faire passer la musique complètement différents. Donc le clavecin, on est à la fin du XVIe siècle, XVIIe et XVIIIe siècle. C'est ce qu'on appelle les spécialistes la période baroque. Donc naturellement, le claveciniste, il joue toute la musique du siècle des Lumières, l'époque du Roi Soleil, c'est-à-dire un moment où la France était très très puissante, un moment où le style musical évoluait avec le style de la cour du roi. Donc aller rapidement vers Rameau pour un claveciniste, c'est presque immédiat en fait. C'est notre bible. On apprend à jouer cette musique, on apprend ce répertoire en passant par des compositeurs comme Rameau. Et Rameau était claveciniste, a été un moment organiste. Il était même organiste à Lyon pendant quelques années, au début du XVIIIe siècle. Et Rameau est un compositeur qui a laissé des pièces pour un instrument, pour ce qu'on appelle les concerts de musique de chambre, pour l'église et avec tout un cycle de grands motets notamment, et aussi pour l'opéra. C'est peut-être lui qui a posé après Jean-Baptiste Lully, les fondements de l'harmonie moderne au XVIIIe siècle en France. Donc voilà, les surprises de l'amour, c'était un vrai challenge. C'est un ballet en trois ou quatre actes, trois ou quatre entrées plutôt. C'était une œuvre monumentale où il y avait beaucoup, beaucoup de monde. Il y avait un orchestre de 40 ou 50 personnes. Il y avait 40 chanteurs, 40 chanteurs choristes et peut-être 40 danseurs. On n'est pas arrivé à avoir ces effectifs-là pour recréer cette partition, mais néanmoins, c'était une belle aventure, comme je le dis, qui a pu avoir lieu avec des partenaires importants, comme le Festival de musique ancienne de Lyon, comme Versailles, comme des labels discographiques de qualité, comme Glossa notamment.
Pour évoquer donc cet enregistrement en particulier, est-ce qu'il s'est fait au terme de représentations qui auraient été données, ou c'est un pur produit, enfin du moins, le terme n'est quand même pas très heureux, est-ce que c'est seulement une occasion uniquement en studio, quelque chose qui a été fait avec beaucoup d'efforts pendant un mois?
Alors, c'est intéressant ça, parce que évidemment la musique classique aujourd'hui, elle a de plus en plus de mal à se monter en studio pour une raison atroce, c'est qu'elle coûte cher. C'est-à-dire que chaque minute qui passe représente un poids. Donc la plupart du temps, les disques classiques avec des grandes formations, les nouveaux disques, les nouveautés sont finalement des enregistrements live. Alors dans le cas du Rameau, ça a été un long processus qui a commencé par des concerts au Centre culturel et festival de Sablé, puis en Hollande, au festival d'Utrecht, qui est un énorme festival consacré à la musique ancienne. C'était il y a longtemps maintenant, presque 4-5 ans. À partir de là, on a eu envie de l'enregistrer et ça a pris du temps de monter une production, c'est-à-dire d'avoir les sous de plusieurs partenaires. On est arrivé à, grâce au Festival de musique ancienne de Lyon, à rejouer l'œuvre et avec le soutien de plusieurs partenaires importants, en tête de liste la Fondation Orange, qui est très active pour la musique classique, et puis tous nos partenaires de la région, de la ville, qui nous ont permis de monter ça. C'était finalement 8 jours de studio. Alors 8 jours de studio, c'est beaucoup et c'est pas beaucoup. Ce n'est pas beaucoup quand la partition demande 3 CD, comme dans ce cas-là. Donc c'est 2h30 de musique, 8 jours, c'est faut aller vite.
Vous avez évoqué à l'instant les Pays-Bas. Je pense que, comme cela, à certains noms, il me semble, enfin, je ne sais pas s'ils sont forcément liés aux Pays-Bas ou peut-être à la Belgique ou d'autres parties, Philippe Hervègue, je pense aussi à René Jacobs. Et puis voilà, pour continuer peut-être ce name-dropping, nous en avons parlé tout à l'heure hors émission, vous avez donc côtoyé Pierre Antaille, vous l'avez dit ensuite, vous avez également fréquenté Christophe Rousset, Emmanuel Krivine, cela s'est aussi fait, Kenneth Gilbert. Voilà, tous ces différents noms d'ailleurs, René Jacobs et Philippe Hervègue, avez-vous été amené à les côtoyer? Et puis, est-ce que vous pourriez donc, à travers ces différents noms, essayer de retracer un peu ce parcours que vous avez eu?
Oui,
vous en étiez
sûr.
À donc une expérience de claveciniste. Parce que voilà une autre question, c'est pourquoi être arrivé ensuite à la direction d'orchestre? Et puis même, autre chose, pourquoi être arrivé au tout début au clavecin? C'est dans la petite enfance, vous avez...
Oui, c'est vrai que c'est un petit peu bizarre, mais en fait, je crois, c'est des questions que maintenant je peux me poser, en tant que parent d'ailleurs, comment les petits viennent à la musique? Je pense que ma réponse est que les parents décident un peu à leur place. Alors, dans mon cas, voilà, j'ai eu une maman qui aimait bien la musique, qui n'était pas musicienne, mais qui m'a proposé la musique. Alors, c'était d'abord de la flûte à bec, puis rapidement du clavecin à l'âge de 11 ans.
Du clavecin, c'est quand même très surprenant, pas de piano.
Enfin, non, mais en fait, ça c'est le côté moins rigolo, c'est-à-dire que et je crois que c'est très vrai à Lyon, d'ailleurs malheureusement, quand on veut inscrire les enfants au conservatoire, c'est difficile parce qu'il n'y a pas de la place pour tout le monde en fait.
Il y a une brève dans la presse dernièrement sur Paris, il y a justement une sorte de polémique sur une décision qui a été prise, c'est que ça va être tiré au sort.
Il ne sera
plus question d'attendre la nuit entière ou de payer des personnes pour attendre à sa place, il sera plutôt question de faire ce qui est déjà fait à Nantes, Angers, je ne sais plus où encore, système de tirage au sort.
C'est compliqué, c'est pas du tout...
Le moins pire, ai-je lu, que ce serait.
Oui, c'est pas du tout évident. Alors moi, on parle de mes études de musique, elles remontent à il y a longtemps. On était dans les années...
Les années 90, j'ai lu, je crois, c'est ça?
Oui, c'est ça, oui. 85, on va dire, bon, petites, alors, quand j'ai démarré.
Un tout petit peu avant.
Voilà, ouais. J'avais 10 ans en 85. Et donc, j'étais dans une ville de taille moyenne, en l'occurrence à Aix-les-Bains. Ça se faisait encore assez simplement, mais finalement, il restait de la place en flûte à bec. Et donc, je suis arrivé en flûte à bec. Et au bout de 2-3 ans, quand la question s'est posée s'il fallait continuer sur un autre instrument, le répertoire du clavecin, finalement, est celui qui se marie le mieux avec la flûte à bec. Ce sont deux instruments qui ont la même histoire, presque. L'époque, l'âge d'or de ces deux instruments, finalement, c'est le XVIIe siècle, début XVIIIe. Donc, naturellement, j'ai glissé vers le clavecin. Ensuite, pour des histoires d'affinité et de goût, le clavecin a pris toute la place. Et puis, de toute façon, c'est difficile de mener de front des études de deux instruments en même temps. Alors, voilà, du clavecin pendant 5-6 ans, pendant les études générales, scolaires, jusqu'au bac, puis ensuite un parcours au Conservatoire supérieur à Paris, au Conservatoire national supérieur.
Et donc, c'est là que vous rencontrez donc Pierre Antaille, qui est votre professeur?
Alors non, pas tout à fait.
Pas tout de suite.
En fait, Pierre Antaille a été professeur au Conservatoire national supérieur de Paris, mais un petit peu plus tard. Donc moi, mon professeur, c'était Kenneth Gilbert. C'était un monsieur très savant.
Un autre très grand nom aussi.
Oui, absolument. Grand monsieur du clavecin, qui était une vraie encyclopédie vivante, qui avait une collection de clavecins anciens. C'était magnifique. Et Christophe Rousset était à ses côtés pour nous enseigner l'art de l'accompagnement, ce qu'on appelle techniquement le continuo. Alors en même temps, moi j'ai eu un parcours un peu dissident, c'est-à-dire que j'étais aussi au Conservatoire d'Amsterdam, dans une autre école, avec un professeur qui s'appelait Bob van Asperen, qui est un des élèves de Gustav Leonhardt, qui était encore...
Ah, voilà, Gustav Leonhardt, j'avais vu ce nom apparaître, ouais, effectivement, dans une biographie.
Voilà, c'était un peu Monsieur Clavecin en Europe, Gustav Leonhardt. Alors, il est décédé maintenant, il y a 2 ans à peu près.
Oui, c'est assez récent.
Assez récent.
Il y a des coffrets, je crois, des compilations.
Ah oui, c'était un magnifique artiste, un magnifique homme. Voilà. Donc ça, c'est ce parcours d'instrumentiste qui se fait dans le cadre des études supérieures. À l'époque, ça s'appelait le prix. Aujourd'hui, c'est devenu un master 2, comme dans toute grande université. Et puis, ça dure longtemps, les études musicales. Donc finalement, ça nous emmène jusque... Après des études de clavecin, j'ai étudié le pianoforte. Et puis, on commence à rentrer dans la vie active. On commence à être demandé, quand ça se passe bien, par des chefs et des orchestres que peut-être le grand public connaît un peu plus, des orchestres comme la Grande Écurie et la Chambre du Roi avec Jean-Claude Malgoire, comme les Arts Florissants avec William Christie, comme le Concert Spirituel ou les Musiciens du Louvre avec Marc Minkowski. Et de fil en aiguille, on fait sa petite place. Et puis à un moment, sa petite place, on a envie de faire autre chose, on a envie de faire sa musique à soi-même, je pourrais dire. Et donc les nouveaux caractères... Petit à petit, l'idée apparaît, et puis un jour, on passe à l'acte.
Donc, fondation, création de ces nouveaux caractères en 2006, je crois, vous dites.
Oui, voilà, c'est ça.
C'était les 10 ans.
Absolument. Eh bien, en fait, voilà, c'est rigolo que vous parliez de ça. On est en train de réfléchir depuis peu, avec Caroline Mutel, sur peut-être comment célébrer ces 10 ans. Voilà. On a plein d'aînés qui ont fait ça avec leur formation. C'est vrai que 10 ans, c'est pas rien. On a quand même réalisé des belles aventures, des beaux concerts. On va voir l'année prochaine ce qu'on peut inventer.
Alors, les noms, moi j'y suis toujours très attentif et je trouve toujours qu'ils sont très importants. Vous avez évoqué à l'instant Caroline Mutel, un nom que je n'avais pas encore donné, puisque c'est elle qui sera à la mise en scène. Vous êtes, vous, à la direction musicale de cet opéra Didon et Aîné de Henry Purcell, qui sera donné. J'ai enfin tous les éléments sous les yeux, du mardi 28 avril jusqu'au mercredi 6 mai, je crois. C'est donné à 19h30 en soirée. Le mercredi 6 mai sera à 15h et il y aura également des scolaires, les mardis 28, jeudi 30 et lundi 4 mai à 10h du matin. Caroline Mutel, donc elle sera à la mise en scène et Florence Dupré-Latour sera au scénario ainsi qu'au dessin. Donc je vous propose encore de patienter un peu, auditeur et Sébastien Derain, pour évoquer donc plus précisément votre travail et puis ce qu'est cet opéra en particulier, parce que voilà, je parlais de noms, vous avez évoqué William Christie, vous avez donc tout à l'heure aussi parlé de Kenneth Gilbert, puis après vous avez nommé Gustav Leonhardt. Peut-être on va écouter un peu de musique, parce que je pense que vous avez beaucoup parlé, moi je commence à beaucoup parler aussi à l'instant, donc il va falloir que je m'arrête. Mais pour ces différents noms, peut-être une question à venir ensuite, c'est pour parler donc plus précisément de cette musique baroque, peut-être pourquoi maintenant, depuis plusieurs années, pourquoi est-ce que les Pays-Bas, me semble-t-il, avec donc la Belgique ainsi que l'Angleterre, pourquoi sont-ils assez concernés, assez travaillés, assez, enfin pourquoi y a-t-il ces illustres noms dans la musique, parce que des noms italiens sur musique baroque des spécialistes actuels, je n'en connais pas, je pense pas que Claudio Abbado ou bien d'autres chefs ou Ricardo Muti sont spécialistes de musique baroque. En Espagne, j'en vois pas trop. En France, ils sont nombreux, et même d'ailleurs, c'est intéressant, William Christie est venu en France, les arts florissants, c'est je crois vers Caen.
Vous avez la subvention de la ville de Caen vient d'être abandonnée pour les arts florissants.
Bon, alors on pourra l'évoquer. Kenneth Gilbert, vous vous dites, était professeur
canadien et à Paris depuis toujours.
Voilà, donc je dis Angleterre ou peut-être anglophonie. Oui. Donc je vous propose d'écouter un peu encore de musique baroque pour justement davantage la préciser ensuite avec cette idée. Enfin, je ne sais pas, voilà, je lance cette question. Pourquoi est-ce que les Anglais ou disons les anglophones ainsi que les néerlandophones, pourquoi sont-ils, je ne sais pas, quel autre terme employés, concernés, ou sont-ils bien au fait, enfin disons, sont-ils de grands noms de cette musique baroque, et puis aussi, enfin, pourquoi viennent-ils en France, enfin disons, viennent-ils, qu'est-ce qui se fait en France, vous avez répondu à ça tout à l'heure en parlant de Rameau, donc on va écouter une autre piste, m'avait dit ça tout à l'heure.
Toujours de Rameau.
Qu'est-ce que c'est, toujours Rameau?
Oui. Alors, le premier extrait, c'était un passage, c'était La Tempête dans Anacreon, le troisième acte des surprises de l'amour. Là, je crois que j'ai retenu la dernière danse, un peu enlevée, qui s'appelle une contredanse de la lyre enchantée. Alors, la lyre enchantée, c'est une histoire un peu farfelue, entre une sirène et une muse, toutes les deux amoureuses du même héros, et finalement, ça tourne mal, ça finit bien. Voilà, on est toujours un peu dans les mêmes problématiques, et donc c'est un ballet, donc ça finit orchestralement.
Nous allons écouter de la musique baroque, mais nous sommes bien sur Radio Canu. Il est 14h25, nous sommes en compagnie de Sébastien Derain et c'est très intéressant, ça va durer jusqu'à 15h. Zut, j'ai tout interrompu alors que ça aurait pu continuer. Ce qui aurait pu continuer, ça n'est pas du tout ce que Sébastien Deyrin a annoncé. Hélas, erreur de ma part, mais les auditeurs le savent très bien, c'est que parfois je me mélange dans les manettes. Nous n'écoutions pas ce que vous avez annoncé, savoir...
Oui, je parlais d'une contredanse.
On l'écoutera tout à l'heure.
La dernière danse de cet acte. Et en fait, on a entendu le début de ce deuxième acte, qui est donc la lyre enchantée, avec une chanteuse lyonnaise qui s'appelle Virginie Pochon, qui interprète, je crois, le rôle de Parthénope.
Caroline Mutel également, je crois, a été chanteuse comme Virginie Pochon. Moi, il me semble que ce nom-là, je l'ai vu à l'Opéra de Lyon, non?
Et elle, oui, absolument.
Dans le studio,
alors,
à une époque.
Tout, oui,
pas
absolument.
Le studio récent, pas celui de 2003,
à l'époque
2004,
où la troupe existait. C'est-à-dire, Caroline, donc, est chanteuse soprano, était dans ce qu'on appelait la pré-troupe de l'Opéra de Lyon dans les années 2000-2002.
Oui, voilà.
Donc, voilà, Caroline a eu un beau parcours de soliste dans les opéras français. Elle chante, continue de chanter. D'ailleurs, on utilise l'imparfait bizarrement. Et Caroline met en scène nos spectacles quand on a l'occasion d'avoir des productions scéniques. Donc, elle a même une double casquette en chantant un des rôles de la partition et en mettant en scène toute l'équipe.
Donc c'est une enchanteuse, une enchanteresse.
En fait,
vous avez dit enchantant, donc ouais. J'ai voulu reprendre ces mots.
Mais en fait, c'est une... comment on dit, c'est la première confidente de Didon dans ce qui nous concerne au Théâtre de la Croix-Rousse.
Est-ce Belinda, alors?
Absolument.
Nous recevons. Il est 14h30, il est temps de revenir là-dessus, enfin de bien l'indiquer. Nous sommes dans l'émission spectaculaire, nous sommes bien sur Radio Canu et nous recevons Sébastien Deyrin pour parler de Didon aîné, un opéra de Henry Purcell, livret de Nahum Tate. Un opéra, on va en parler peut-être plus précisément encore dans quelques instants, qui date de quoi? Du XVIIe siècle, c'est encore un peu compliqué peut-être de le dater précisément. Cet opéra, en revanche, à Lyon, on peut donner les dates. Il sera donné au Théâtre de la Croix-Rousse du mardi 28 avril à 19h30 jusqu'à la semaine suivante, le mercredi 6 mai. C'est à 19h30 en soirée, il y a également 15h le mercredi, et puis il y a même des horaires scolaires. Sébastien Deyrin sera la direction musicale, Caroline Mutel, dont nous venons de parler, sera la mise en scène, et puis il faut également parler de Florence Dupré-Latour, qui assurera le scénario, ainsi que les dessins. Donc ça, c'est de l'opéra à venir, un opéra qui s'inscrit dans ce courant baroque. Est-ce que nous pourrions, avant de parler plus précisément de cet opéra, est-ce que nous pourrions, pourriez-vous plutôt, s'il vous plaît, Sébastien Deyrin, donc... Je ne sais pas comment dire, c'est pas tant précisé. Pourriez-vous en deux mots dire ce qu'était la musique baroque, mais plutôt ce qu'est cette musique baroque maintenant, ou alors pourquoi, voilà, c'est cette question que je vous lançais tout à l'heure, qui n'est pas très nette finalement.
Souvent, on dit qu'il y a une forme de mode sur la musique baroque. C'est difficile de pour moi de dire que c'est une mode, parce que finalement, c'est une mode qui commence à durer longtemps. Donc je pense que la musique baroque, elle fonctionne aujourd'hui et est très bien accueillie, programmée, parce que c'est une musique qui parle facilement à tout le monde et que parfois...
Plus qu'une mode, puisque vous évoquiez, vous parliez tout à l'heure des années 50, donc alors là ce serait vraiment...
Disons que, on évoquait hors antenne les premiers instrumentistes et chefs qui se sont lancés dans cette redécouverte finalement... plus d'une pratique que d'un répertoire. Je veux dire, les grands orchestres philharmoniques connaissent le répertoire de Bach, connaissent les Brandebourgeois, connaissent même les suites de danse de Purcell. Simplement, je ne sais pas comment dire, la tradition, le poids de la tradition peut-être, des petites dérives qui se font sans qu'on en soit bien conscient, amène à un jour à réaliser que cette musique, on la joue peut-être pas comme elle était jouée à la création. Et donc des instrumentistes, avant tout des instrumentistes, décident de peut-être des chercheurs, hein, finalement des pionniers, on pourrait dire, si on parlait d'un autre domaine, décident de se lancer, c'est-à-dire qu'on abandonne le violon cordé en métal, on abandonne le hautbois avec toute une mécanique de clés, on abandonne la flûte en argent, et on retrouve des instruments tels qu'ils étaient au XVIIe siècle, c'est-à-dire une flûte traversière entièrement en bois, un hautbois sans clé, des cordes, c'est-à-dire des violons cordés en boyaux et pas en acier ou en métal. Donc ces gens-là, on les connaît, c'est Jean-Claude Malgoire, Monsieur Arnoncourt évidemment, Hervègue et William Christie un petit peu plus tard. Et donc, la grande écurie, l'orchestre de Jean-Claude Malgoire, c'est 1966 quand même, c'est exceptionnel. C'est un beau parcours, de belles retrouvailles.
Et alors, quand je vous ai interrompu, là, il y a quoi 39 secondes, vous étiez en train de dire que cette musique rencontre tout de même, je ne sais pas pourquoi je dis tout de même, mais cette musique rencontre un certain succès. Enfin, disons,
oui,
il y a une belle adhésion
à des années publiques. Je pense que depuis les années 85, pardon, le public s'y retrouve, a découvert quelque chose peut-être de plus. Je ne sais pas, plus... C'est difficile, parce que je ne veux pas parler en creux par rapport au répertoire symphonique et tout ça, mais peut-être de plus vivant, plus surprenant, plus... peut-être plus simple aussi dans le répertoire, quelque chose où les gens pouvaient... Souvent, le public qui est nous dire « mais nous, on n'est pas musiciens, on ne sait pas », mais peu importe. Voilà, l'idée, c'est que ça touche, et cette musique, elle est faite d'harmonies plus simples, de rythmes plus simples, mais... Voilà, elle a un charme qui correspond à une époque, qui est peut-être plus immédiat. Souvent, j'aime bien dire qu'elle est un peu physiologique, elle fait résonner des sentiments, des sensations immédiatement.
Et pour ce qu'il est de son interprétation, les instruments d'époque, donc vous... Enfin, bien entendu, vous semblez plus adapté, mais c'est-à-dire les sonorités sont plus chaudes,
c'est technique.
Plus touchantes.
Souvent, on entend que le violon baroque est peut-être un peu moins puissant, mais plus résonant. Ça se comprend bien avec une évolution de l'esthétique et d'un goût du soliste, par exemple. Le piano prend le dessus sur le clavecin, notamment parce qu'il a plus de coffres, il peut remplir une salle plus grande, il peut être plus violent, percutant, que le clavecin, qui est un instrument, au fond, sans nuance. La corde pincée, le mode d'émission du clavecin, ne permet pas de réaliser de vrais pianos et de vrais fortés. Donc on est le claveciniste par rapport au pianiste est un illusionniste en fait.
Et le claveciniste a un rôle très important puisque à la basse continue, c'est ça. Enfin du moins c'est ce qui assure un, je ne sais pas comment nommer cela, ce qui assure un, ce qui tient l'ensemble, c'est ça. Et c'est d'ailleurs vous-même dans ces nouveaux caractères, vous êtes au clavecin.
Oui, absolument. Oui. Donc la production que nous allons présenter la semaine prochaine est une adaptation de toute cette opéra de Didon Aîné, et ça repose sur finalement d'abord sur le clavecin et sur le fondement de cette musique qui est l'harmonie. Et donc l'harmonie, les musiciens le savent, passe par ce qu'on appelle la fondamentale, la basse, qui est tenue par un clavecin et une viole de gamme dans notre cas.
Henri Purcell lui-même assurait lors de la création, c'est ça? Alors, ou disons.
Oui, je vous entendais
la partie de clavecin.
Tenter des dates sur la création de Didon Aîné, et en fait les musicologues se battent un peu pour savoir quand est-ce que cette œuvre et où cette œuvre a été présentée pour la première fois au XVIIe siècle. Donc on ne sait pas bien, en tout cas, à ma connaissance, on n'a pas de certitude. On sait que l'œuvre a été présentée notamment dans un couvent de jeunes filles, une école de jeunes nobles filles de bonnes familles londoniennes, où Purcell tenait le clavecin et chantait probablement le rôle de l'enchanteresse.
Il faut peut-être, c'est assez terrible, nommer l'école parce que ça pourrait parler à éventuellement quelques-uns des auditeurs, quelques-uns de nos auditeurs qui seraient fans de football. Je crois bien que l'école de jeunes filles, c'était un club actuel de foot et un club qui en plus à Londres est, me semble-t-il, un peu caractérisé comme étant le club riche. C'est bien Chelsea.
C'est dans le quartier. Oui,
voilà. Et donc, ça peut être intéressant tout de même pour signifier, parce qu'en plus, je crois que vous êtes assez attentif vous-même à cette idée d'aristocrate. Dans le dossier de presse, vous avez différents termes qui parle de cela. Je vais essayer de les retrouver. Et puis en plus aussi, la question des bourgeois, je crois que ça parle un peu à Florence Dupré de la Tour. J'ai pu voir quelques extraits de sa bande dessinée Forever Ma Sœur, je crois. Et puis, différentes choses. Et puis vous commencez vous-même le dossier de presse en indiquant opéra et bande dessinée. Quel lien, que pourraient dire les puristes? Ce que je vous propose, c'est de faire une micro-pause pour prendre votre souffle et bien entamer une dernière ligne droite sur quel est ce spectacle très particulier, un spectacle lui-même déjà à la base de Purcell, un opéra de Purcell qui est assez unique dans son genre, puisque c'est le seul opéra de Purcell. Il a fait à côté de cela de la musique de scène, oui. Ou disons oui, alors ben, nous l'évoquerons.
Oui, oui, enfin, c'est un petit peu, on navigue entre opéra et semi-opéra.
Un opéra très court aussi, un opéra qui donc, enfin voilà, pour lui-même est particulier, et en plus, au Théâtre de la Croix-Rousse, du mardi 28 avril au mercredi 6 mai, sera donné avec de la bande dessinée, donc ce sera vraiment sûrement quelque chose d'assez étrange, quelque chose qui a déjà été donné depuis quelques années, oui. Donc il y a déjà une expérience. Nous écoutons donc ce que vous avez prévu tout à l'heure, c'est-à-dire la
contredanse,
la contredanse,
la piste 28.
C'est bien ce qui est calé. Et ensuite, nous évoquons donc avec Sébastien Desrains cet opéra à venir, Didon est né, au Théâtre de la Croix-Rousse à partir de la semaine prochaine. Cela, la basse continue qu'on entendait encore à la fin. Il me semblait qu'il y avait quelques notes qui résonnaient. Quoique là, non, on n'est pas dans le cadre d'un opéra. Donc la basse continue n'a pas lieu d'être pour un ballet.
Si, absolument. La basse continue. En fait, techniquement, la basse continue, c'est la clé de fa en bas de la partition qui est jouée par la main gauche du claveciniste. Et la main droite, elle improvise un peu à la manière d'un instrumentiste de jazz. C'est-à-dire qu'on est sur un canevas où on a une note avec un chiffrage. Ça peut être 5, ça peut être 6, ça peut être 7, ça peut être 9, qui nous donne en fait l'harmonie dans laquelle on doit graviter, on doit improviser. Et c'est cette basse continue qui continue parce qu'elle est continue et parce qu'elle porte ce qui se passe au-dessus. Ça peut être un instrument, ça peut être un chanteur.
C'est Sébastien Desrains, claveciniste, également directeur de l'ensemble Les Nouveaux Caractères, qui tient ses propos de spécialiste sur ce que nous écoutions à l'instant. Donc un extrait de Rameau. Là, maintenant, nous nous apprêtons, toujours dans l'émission spectaculaire, toujours sur Radio Canu, à 14h42, nous apprêtons à parler donc maintenant très précisément de cet opéra de Purcell, Didon est né, qui est donné la semaine prochaine au Théâtre de la Croix-Rousse. On a une semaine d'avance, nous, pour l'émission, mais vous, non, les répétitions ont déjà commencé, les mises en place sont déjà faites, et pourtant, cet opéra, donc vous le donnez depuis 2010, je crois, vous commencez à en avoir une certaine maîtrise.
Oh bah, disons que c'est un opéra dans lequel moi j'ai beaucoup gravité dans différentes propositions scéniques. Alors en fait il y en a eu trois. On a commencé il y a très longtemps, en fait en 2006.
Vous seul, création... les nouveaux caractères donc,
non, les nouveaux caractères, ouais. C'était finalement l'œuvre fondatrice des nouveaux caractères aussi en 2006 à l'opéra de Rennes avec un metteur en scène qui s'appelle Benjamin Lazare, assez connu, assez reconnu je dois dire. Ensuite nous avons lancé cette production que nous donnons donc la semaine prochaine à la Croix-Rousse en 2010, oui, à peu près. Et puis l'année dernière et l'année d'avant, j'ai participé avec Les Nouveaux Caractères à un autre spectacle mis en scène par Bernard Lévy. Voilà, donc c'est finalement, ça reflète que c'est une œuvre de qualité qui présente un intérêt régulier.
Alors peut-être, est-ce hein, quelque chose qui n'est jamais très, très beau à dire, mais bon, enfin, vous l'avez déjà indiqué, vous l'avez déjà donné tout à l'heure, cet élément. C'est court, voilà, déjà, ça pourra
être... C'est une œuvre, c'est ce qui fait un peu tout le charme de Didon Aîné.
Moins rebuter certains qui pourraient être...
Absolument, oui, c'est, on n'est pas parti pour 3 heures de musique. C'est une œuvre qui dure 55 minutes. C'est une œuvre, c'est un petit bijou du monde de l'opéra, c'est-à-dire que c'est un condensé des meilleurs moments de l'opéra, c'est-à-dire une ouverture brillante, des passages mélodiques chantés très évocateurs et très sensibles. Il y a notamment à la fin de la partition la mort de Didon, de la reine Didon. Il y a des danses, il y a des personnages plus drôles comme des sorcières, des enchanteresses. Voilà, tous les ingrédients sont réunis en 55 minutes.
Oui, vous le dites bien, vous parlez de Purcell qui règne en virtuose, des passions amoureuses et des rebondissements dramatiques. Et dans cet opéra, il passe donc des lignes mélodiques les plus suaves aux danses d'orchestre les plus enlevées en un instant. C'est également peut-être ce qu'on peut un peu retrouver dans cette musique de Rameau que nous avons écoutée. Est-ce qu'il y aurait des similitudes, ou est-ce que d'ailleurs les compositeurs se seraient-ils connus? Est-ce qu'ils sont de même époque?
Non, absolument pas.
Non, ils ne sont pas du tout contemporains.
A priori, ils ne sont pas connus. Purcell meurt en 1692-95, je ne sais plus, et Rameau en 1764. Rameau avait 6 ans à la mort de Purcell.
Mais est-ce que l'un a pu,
Rameau a potentiellement entendu la musique de Purcell, mais alors ça je peux pas vous dire, je peux pas vous l'assurer. Ce qui est sûr, c'est que la vie musicale à Londres était très active à la fin du XVIIe siècle et que Purcell a régné sur les divertissements de la cour anglaise comme Jean-Baptiste Lully a régné sur la cour française à cette époque-là. Voilà.
Et alors, donc cet opéra, vous avez évoqué deux autres mises en scène, mais alors pourriez-vous dire plus précisément ce qu'il en est de un objet particulier tout de même?
Oui, c'est une production un peu, on espère, originale et surprenante, où on a décidé de marier une musique baroque colorée, rythmée, vive dans les enchaînements, à l'univers de la bande dessinée. Alors, quelle drôle d'idée, et ça part évidemment d'un goût personnel pour la bande dessinée. Enfin, moi j'aimais bien ça, j'avais pas mal d'ouvrages à la maison, et donc il y a cette petite phrase rigolote dans la présentation où effectivement l'opéra, pour les gens qui ne connaissent pas l'opéra, ça se résume à la Castafiore dans Tintin, et la bande dessinée, pour les gens qui ne connaissent pas la bande dessinée, se résume à la Castafiore dans Tintin. Voilà. Donc, nous, on était contents de présenter une musique un peu... un peu rare, avec une auteure vraiment qui a un monde tout très développé, très coloré, qui est représentée donc par Florence Dupré-Latour, qui est une artiste qui habite la Croix-Rousse également. Et donc on s'est réunis pour la première fois grâce au Festival de bande dessinée de Lyon en 2010. Mais ça, je ne suis plus sûr. Et on a déjà depuis donné dans 2-3 lieux cet opéra. On a été accueillis par le Théâtre de la Renaissance, par le festival, voilà. Donc là, on est très content que Jean Lacornerie et la Croix-Rousse nous refassent confiance pour une nouvelle présentation.
Et alors, donc, enfin, comment cela se matérialise-t-il sur scène? Qu'en est-il? Vous êtes donc trois, vous, Sébastien Desrain, Caroline Mutel à la mise en scène, oui. Et puis Florence Dupré-Latour au dessin, c'est-à-dire il y a donc...
Alors,
l'orchestre est sous une fosse? Il y a quand même une fosse
Non, absolument pas.
Sur scène?
Alors, c'est on pourrait dire une réadaptation. Les instrumentistes sont sur scène. Alors, on est en formation plus légère qu'un orchestre. Il y a 4 instruments. Et les chanteurs sont sur le plateau, mis en scène. Ils sont 6. Et le projet de bande dessinée, en fait, on pourrait dire, est une réalisation de scénographie. C'est la bande dessinée est le décor de cette aventure. Avec un avantage qui, pour nous, était... principal et qui un peu donnait raison à ce projet, c'est que la bulle de la bande dessinée vient remplacer l'horrible surtitrage qu'on a à l'opéra en haut, où on est obligé de lever les yeux pour suivre ce qui se dit dans une langue étrangère sur le plateau.
Magnifique. En plus, un surtitrage qui pour cet opéra n'est peut-être pas nécessaire, parce que pour avoir lu le livret en anglais dernièrement, un peu particulier d'ailleurs l'anglais de Naum Tate, pour avoir lu donc cela, il me semble qu'il y a beaucoup de reprises, beaucoup de choses qui sont qui reviennent à la fois des paroles prononcées donc par les protagonistes, Didon, Aîné, Belinda, ou je crois qu'il y a encore une quatrième personne.
Oh bah oui. Alors les deux premiers sont Didon et Aîné évidemment. Belinda est la première confidente.
Ensuite, il y a une deuxième confidente alors.
Oui, il y a le personnage s'appelle la deuxième femme. Bon, c'est un peu pas très personnel, mais
il y a des sorcières qui apparaissent
voilà,
aussi.
Et ensuite, à l'acte 2 apparaissent l'enchanteresse et deux petites sorcières. Ainsi qu'un esprit, qui est un esprit malfaisant, et puis un marin. Voilà.
Et les chœurs qui sont présents, donc très souvent les chœurs reprennent les mots qui viennent d'être chantés par les protagonistes. Moi par exemple, j'ai été attentif à cela parce que j'ai pu en écouter quelques extraits. Il y a notamment un passage où Belinda répète plusieurs fois une même chose, très jolie, une très belle mélodie. Je pourrais presque tenter de le fredonner, mais je vais surtout pas essayer ça. Je vais essayer de retrouver la chose. Pursue thy conquest love, il me semble. Oui. C'est à la fin, je crois, de l'acte 1, il me semble, c'est juste avant l'acte 2, elle le répète, donc je sais pas 10 fois, mais pas
oui,
loin.
Oui.
Pursue thy conquest love, pursue thy conquest love, alors que là, j'ai le livret sous les yeux, c'est seulement indiqué. Pursue thy conquest love, c'est poursuit donc, je pense, ta recherche amour ou chérie, ses yeux, avoue sa flamme et sa langue le dit le contraire. Il me semble que ce qui se lit en deux lignes, ça doit faire quoi? Une minute de musique ou peut-être 2 minutes, et c'est d'ailleurs très joli, très, très chantant.
Oui, c'est l'opéra, c'est-à-dire que voilà, souvent il faut un air de 3-4 minutes pour dire une chose qui s'exprime en 3 mots, 4 mots. Le représentant le plus extrême là-dedans, c'est Monsieur Handel avec l'opéra baroque, Jules César, Ariodante et tous ces airs qu'on appelle des arias da capo. Finalement, il y a 2 phrases de texte et l'air est interminable en général.
Mais donc, enfin, nous tenons ces propos pour justement indiquer que la pertinence donc des bulles qui assurent, oui, qui remplacent, oui, les surtitres qui effectivement sont très moches. Oui. Aller à l'opéra et voir des surtitres.
Oui, c'est vrai que c'est un peu
même au cinéma,
c'est pas agréable. Souvent, c'est pas du tout dans l'esthétique du spectacle. Donc, il y a un petit côté. Oui, artificiel. Donc là, effectivement, le dessin, le texte, tout est intégré au, tout est homogène. Enfin, en tout cas, on l'espère. Et Florence a été vraiment très brillante et très surprenante dans la réalisation de ces planches.
Ah, avec donc une sorte de réécriture, puisque dans la distribution il est également indiqué qu'elle est au scénario. J'ai par exemple une bulle sous les yeux. Voyez comme flottent pavillons et flammes, comme on lève l'ancre, comme on déploie les voiles. Est-ce effectivement du texte traduit de Naum Tate, ou alors est-ce que c'est Florence Dupré-Latour, dessinatrice, qui a réécrit certaines choses?
Donc ça, c'est le... Je ne peux pas vous dire exactement au mot à mot, mais ça fait référence au passage du marin qui, en fait, exhorte son chef, c'est-à-dire Aîné, à partir. Il faut abandonner l'amour pour réaliser son destin. En l'occurrence, Aîné, son destin, c'était d'aller fonder une nouvelle Troie et fonder l'Italie moderne, quoi, en fait. Rien que ça.
Je vous remercie de faire quand même cette chose importante qui est peut-être de tout de même parler de l'intrigue. Qu'est-ce que raconte Didon et Aîné? On peut le deviner, c'est une histoire d'amour. Didon est une femme, Aîné est un homme. J'ai une autre sorte de bulle sous les yeux de Florence Dupré-Latour. Peut-être qu'elle peut donner les éléments. Non, je m'apprête à dire que c'était le début, ça m'a plutôt l'air d'être la fin. La belle Didon, reine de Carthage, en son palais, pleure les serments du passé.
Oui, alors la reine Didon, c'est la reine de Carthage, donc Carthage c'est en Tunisie. C'est une reine triste, une reine éplorée, qui est un peu malmenée par les autres rois de la région de Carthage, et notamment il y a toute une légende qui a donné... un théorème de mathématiques où elle a rusé pour obtenir une Carthage assez grande. En fait, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros...
Incroyable, on parle de maths, on parle de football, oui, on parle de tout avec l'opéra de Purcell.
On lui a demandé de... avec une peau d'animal, de délimiter, le roi qui la menaçait lui a dit que son territoire serait ce qu'elle pourrait délimiter avec une peau d'animal. Et elle a filé cette peau et elle a eu un territoire qui était vaste finalement. Et le théorème de mathématiques, je ne vais pas me lancer dedans, mais bon.
On retrouvera
ça. Il faudra faire venir un invité spécialisé.
Ou j'essaierai de le mettre sur le blog si je trouve quelques liens.
Mais donc Didon est triste l'histoire. À Carthage et Énée vient d'essuyer le revers de la guerre de Troie et donc parti. C'est un peu une épopée à la Ulysse finalement. Les dieux lui disent de partir et de refonder cette Troie brillante autre part. Sur le chemin, il s'arrête à Carthage, il tombe amoureux de Didon. Mais voilà, il y a toute une intrigue organisée dans le contexte de Purcell par une enchanteresse, donc une sorcière, on pourrait dire, qui en fait, dans la littérature, est plutôt une espèce de volonté divine. Les personnages de l'opéra sont un peu plus rigolos, finalement, un peu plus sur des sorcières, sur des elfes, sur des... un peu toute la, on pourrait presque dire une mythologie type Seigneur des Anneaux. Et finalement, par un coup de passe-passe, les sorcières obligent Énée à quitter Didon. Donc ils lui annoncent abruptement qu'il part, et Didon n'arrive pas à faire face à ce chagrin d'amour, et se donne la mort. C'est donc pas très réjouissant, mais néanmoins, c'est une des morts en musique les plus belles.
Cette mort, vous me disiez, n'a pas lieu sur scène, c'est ça ? C'est seulement le cœur qui évoque qu'elle est morte, les paroles disent, pleurer
en fait,
sa mort.
Disons qu'elle dit qu'elle va se donner la mort, après.
Nous évoquons pour éventuellement les puristes intéressés, nous sommes en train de parler plus précisément, si nous voulons remonter à la source, du livre 4 de l'Énéide de Virgile. Vous parliez d'une épopée à la Ulysse. Pour le coup, on peut effectivement l'indiquer, Virgile s'est quand même grandement inspiré de Homère avec cette double partie dans son texte l'Énéide, une partie qui ressemble à l'Iliade et une autre partie qui ressemble à l'Odyssée. Il a inversé, en fait, c'est plutôt la première partie qui ressemble à l'Odyssée, c'est un voyage, et ensuite la deuxième partie c'est plutôt l'Iliade avec un grand combat des batailles que mène Énée une fois qu'il est arrivé en Italie. Dans le texte, il est quand même très clair que c'est plutôt les dieux eux-mêmes qui viennent rappeler Énée à sa mission. Je crois que c'est également ce qui est dit dans l'opéra de Berlioz, hein, qui a fait des Troyens au XIXe siècle, donc un peu plus tard, bien après Purcell. Donc c'est bien les dieux qui rappellent Énée à sa mission, alors que là, c'est effectivement ce que j'ai découvert à la lecture, ce sont des enchanteresses un peu peut-être shakespeariennes, macbéthiennes, trois sorcières qui viennent chercher des problèmes.
Bon, je pense que, en fait, ça s'explique par les divertissements à Londres. Pour le public, il fallait que ce soit très rocambolesque. Et les dieux étaient très présents depuis longtemps dans la littérature. Mais il y avait une dimension peut-être plus populaire, plus spectacle divertissant. Voilà.
Très bien. Peut-être pourrions-nous, il reste encore quelques instants, parler des chanteurs.
Enfin, oui,
est-ce que c'est une distribution différente pour cette production du Théâtre de la Croix-Rousse, ou bien est-ce que ce sont les chanteurs originaux depuis le tout début? Puis j'avais une autre toute petite question. Est-ce que avez-vous réalisé une sorte d'adaptation, disons une transcription musicale, ou bien vous avez parlé de quatre instrumentistes sur scène?
Oui.
Est-ce que c'est une partition originale?
En fait, c'est la partition entière. Comme elle est écrite du début à la fin, avec les adaptations que j'ai apportées, en fait, techniquement, c'est de donner une voix à un instrument qui n'est peut-être pas celui pour lequel on s'attend à entendre. C'est-à-dire que parfois, le basson va prendre la partie de soprano, alors que dans une version traditionnelle, le basson serait sur le continuo, comme on l'évoquait tout à l'heure. Donc, il y a une adaptation, mais il n'y a pas du tout de... On ne coupe pas la partition parce qu'on n'est pas assez nombreux ou quoi que ce soit. C'est une partition tellement bien écrite, Purcell Morissette était un tel génie musical que cette œuvre est très malléable. Mais donc on joue l'ouverture, on joue tout le divertissement, toute la mort, tous les chœurs.
Et les chanteurs donc
C'est une équipe de chanteurs avec lesquels on travaille régulièrement. Alors ce ne sont pas complètement les mêmes qu'à la création pour des histoires malheureusement de disponibilité, puis je dois dire aussi un petit peu d'accident de parcours de santé pour certains. Donc on a une équipe en partie lyonnaise avec donc Caroline Mutel, Jordi Stébo qui est notre reine tout de même, une belle chanteuse lyonnaise depuis longtemps, Jean-Baptiste Dumorat, baryton qui est né.
J'ai vu également apparaître le nom de Antea Pichanik qui est, oui, je crois, au concert de l'Hostel Dieu de Franck-Emmanuel Comte.
Alors, peut-être, je ne sais pas, mais absolument, Antea est avec nous et c'est une belle découverte. En fait, on ne la connaissait pas, on l'a rencontrée il n'y a pas très longtemps, justement, par rapport à notre précédente enchanteresse qui a eu un souci personnel. Mais donc, Antea est là, c'est une voix rare, dans le sens où les voix d'alto de femmes ne sont pas très fréquentes.
Et c'est effectivement sûrement très rare, puisque si j'ai bien été attentif, et si j'ai d'ailleurs bien aussi lu votre dossier de presse, c'est Henry Purcell lui-même qui chantait l'Enchanteresse,
ça fait partie des théories des musicologues et des témoignages. Alors parfois ça passe par le témoignage d'un journal de l'époque, que Monsieur Purcell chantait la partie de l'Enchanteresse. Donc a priori un homme chantant une partie de femme, c'est assez fréquent dans l'opéra baroque. Ce qui est moins fréquent, c'est que cet homme soit aussi la personne au clavecin, le chef, le compositeur. Nous on retient une version peut-être plus moderne, c'est-à-dire de donner une enchanteresse à une voix de femme.
Et est-ce que cela quand même peut révéler quelque chose sur son timbre de voix à Henry Purcell, ou même pas, c'était peut-être une simple voix de baryton basse?
Sur son timbre, non, je ne pense pas, mais sur sa tessiture, oui, probablement.
Oui, j'ai dit timbre, voilà. C'est tessiture le terme.
Sa tessiture, donc une tessiture de baryton, ou alors de contre-ténor.
Voilà, plutôt.
C'est-à-dire que la tessiture est la même en fonction qu'on chante en voix de poitrine ou en voix de tête.
Voilà. Est-ce que nous aurions tout dit sur cet opéra? Nous avons résumé l'intrigue, nous avons également parlé de la distribution, Caroline Mutel, nous avons parlé de Florence Dupré-Latour, qui est auditeur si vous êtes du côté de Saint-Étienne. Je ne sais pas si Radio Canu peut s'écouter jusque là-bas, il paraît qu'elle est en dédicace cet après-midi, donc allez vite faire dédicacer vos albums. On tentera de la recevoir une fois prochaine ici, puisqu'elle est également lyonnaise. Nous avons évoqué aussi, peut-être pour terminer, vraiment c'est cet opéra. Pour Purcell, voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, enfin du moins ce que je lançais, puis vous n'aviez pas tout à fait l'air d'approuver, ce n'est pas l'unique opéra de Purcell.
Disons que l'œuvre de Purcell est très vaste, avec beaucoup de choses très différentes, et il a écrit beaucoup de musique de scène, c'est-à-dire de la musique qui était faite, par exemple, pour venir illustrer les entractes des pièces de théâtre de Shakespeare, qui, donc le répertoire national, c'était l'œuvre de Shakespeare. Et par exemple, une des œuvres importantes de Purcell, c'est Fairy Queen, qui est écrite sur le songe d'une nuit d'été de Shakespeare. Mais progressivement, Purcell prend le pouvoir, finalement, sur l'œuvre de Shakespeare, et on pourrait dire torture vraiment l'œuvre littéraire, au point qu'il ne reste que du Purcell. Alors c'est très bien, parce que Purcell se suffit complètement à lui-même, mais c'est vrai que Fairy Queen s'appelle encore un semi-opéra, mais au fond, c'est un semi-opéra parce qu'il n'y a pas une histoire linéaire. C'est parfois une des histoires de tableau. C'est-à-dire qu'au sein d'une partition qui dure une heure, j'ai trois histoires, trois petites scénettes qui viennent composer une œuvre.
La durée était la même, ce n'était pas plus important.
Non, dans le cas de Fairy Queen, c'était beaucoup plus long.
Oui, voilà. Oui. Et est-ce qu'on peut, peut-être, ultime question, est-ce que ce serait un peu le rapport Lully-Molière en France, rapport un peu plus tardif, quoique non, c'est à peu près la même époque, il me semble.
Non, c'est la même époque pour Purcell, mais
Purcell, mais
Shakespeare
est
mort depuis. depuis un siècle.
1616, effectivement, oui, non, oui. Décédé bien avant. Okay. Bon, je crois que nous avons épuisé les questions. Nous sommes en train de déborder sur le créneau du blues des canuts de Pascal, qui n'a pas lieu cet après-midi. C'est peut-être pour ça que je me permets cela. Ce qu'on pourrait faire, c'est peut-être écouter à nouveau, puisque tout à l'heure j'ai mangé la chose, repartir sur la contredanse, c'est ça, de Rameau, et puis ensuite générique. Il sera temps de dire au revoir à Sébastien Desrains, qui nous parlait du spectacle Didon et Aîné de Purcell, qui est mis en scène la semaine prochaine au théâtre de la Croix-Rousse. Voilà, spectaculaire se termine aujourd'hui. Nous avons donc dépassé sur le créneau horaire du blues des canuts, qui n'aura pas lieu de 15h à 16h. Son bâtard à 16h, peut-être. Méga combi à 18h, sûrement. Canut info à 19h, possible. Enfin voilà, ce sont les différentes émissions à venir sur Radio Canu. S'il n'y a pas d'émission, il y a les bandes continues. C'est d'ailleurs ce sur quoi je vais vous laisser maintenant. Je vous souhaite une bonne semaine. Je vous dis à la semaine prochaine. Et puis notamment, donc, à partir de mardi 28 jusqu'au mercredi 6 mai, allez donc voir au théâtre de la Croix-Rousse à 19h30 en semaine l'opéra de Purcell, Didon et Aîné, mise en scène par Colin Mutel avec Sébastien Desrains à la direction de son ensemble.